Il n'y a pas eu de nouveaux engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a même pas dans la décision finale de mention de la déforestation alors qu'on était en plein milieu de l'Amazonie. Mais si on regarde bien, il se passe quelque chose auquel il faut prêter une attention importante.
On va parler de climat avec ni plus ni moins que la directrice climat et nature de l'Agence française de développement, Audrey Rochecoff. Salut Audrey.
Salut Jean.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Bexi, très content de t'accueillir. Tu es de retour de la COP30 à Belém et tu vas nous raconter, c'est pour ça qu'on voulait être avec toi ce soir. Raconte-nous, ça ressemble à quoi une COP? Qu'est-ce qui se passe en termes d'endroit? Ça ressemble à quoi?
Merci déjà pour l'invitation. Si tu veux quelques mots sur l'Agence française de développement. Vas-y. Pour resituer un petit peu dans quel rôle j'y étais. L'Agence française de développement, c'est la banque publique de développement qui met en œuvre la politique de la France en matière de coopération internationale et de solidarité. C'est-à-dire qu'on propose des financements à nos partenaires dans environ 160 pays en développement et dans les Outre-mer pour qu'ils investissent dans des projets de développement durable. Donc on parle d'hôpitaux, de fermes éoliennes, de stations d'épuration,
d'accord,
etc. Alors,
La question du climat et de la nature, c'est un gros morceau du total de l'AFD.
Oui, alors à l'AFD, nous on s'est engagé à être complètement alignés avec les objectifs de l'accord de Paris et donc on est très vigilant à ce que tous les projets que l'on finance soient en ligne avec ces objectifs climat. Et nature aussi, puisque désormais, on s'est engagé à être aussi aligné avec l'accord, le cadre mondial pour la biodiversité.
Donc, ça avait du sens que tu sois à la COP30.
Oui.
Pour discuter de tous ces sujets-là. Ça se passe comment, une COP?
Alors, la COP, c'est la grande réunion annuelle des États membres des Nations Unies qui se réunissent pour définir ensemble les nouveaux objectifs en matière de climat et aussi tous les process pour les atteindre. Okay. Donc, c'est un endroit, c'est assez vaste, hein, c'est un grand centre de conférences. Les États, ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec plein de partenaires. Et au total, on est à peu près 50 000 participants parce que d'un côté, il y a les négociateurs, les représentants de ces États qui prennent des décisions politiques. Et puis, de l'autre côté, on a les acteurs, tous ceux qui sont prêts à l'action. Il y a les banques publiques de développement, comme nous, mais aussi toutes les autres dans le monde. Il y a des ONG, des entreprises, tous ceux qui sont prêts à concrétiser les engagements politiques en projet.
C'est quoi le rapport entre le climat et le développement?
Oui, parce que nous, on est une banque de développement et puis on participe à un événement climat. Mais oui, il y a un lien totalement. Maintenant, l'agenda développement économique et social et l'agenda climat, c'est vraiment très difficile de les dissocier parce que je peux te prendre deux exemples.
Vas-y.
Si tu t'engages à faire un projet de développement, par exemple, pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans un pays, tu te dis, je vais accroître la production agricole. Et ce pays, en fait, est vulnérable au changement climatique et il fait face à des sécheresses. Et si tu ne fais pas attention au climat dans ta décision d'investissement et que tu dis, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, on va faire pousser du maïs, tu n'auras pas atteint tes objectifs parce que précisément, le maïs, il est très consommateur d'eau et il supporte mal la chaleur. Donc, ça ne va pas marcher. Pareil, okay. Si tu veux faire un projet très climat, par exemple, tu dis, voilà, une centrale à charbon, c'est très émissif, c'est pas bon pour le climat, on va la fermer, mais que tu n'as pas pris en considération le développement économique et social et, par exemple, la requalification de tous les travailleurs de la filière charbon, tu vas juste accroître le chômage, les inégalités et probablement la pauvreté. Donc, ce n'est pas ce que tu veux faire non plus. Et donc, dans les décisions d'investissement, c'est complètement cohérent de prendre en compte le développement économique et social et le climat et de rejoindre ces agendas.
C'est quoi, ça représente quoi ce que fait l'AFD dans l'effort total pour le climat?
Alors, Déjà, tu peux prendre l'effort mondial. Par exemple, l'un des objectifs de ces COP, c'est de parfois s'entendre sur un volume de finances climat. Donc, par exemple, l'année dernière, à Bakou, la COP29, elle a décidé que les pays riches contribueraient à hauteur de 300 milliards de dollars par an à la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Dans ces 300 milliards, la France, elle va prendre sa part. Pour l'instant, notre engagement, il est de fournir 6 milliards de dollars par an. Et l'AFD, c'est celle qui met en œuvre la quasi-intégralité de ces financements.
De ces 6 milliards, ouais.
Donc, il s'avère que les engagements, en plus, on les a dépassés. On est déjà à plus de 7 milliards.
On a fait mieux que prévu.
Oui. Et à l'AFD, on est à plus de 6 milliards rien que pour nous. Donc,
okay. Comment ça se passe pour la délégation française à la COP? C'est quoi la place de l'AFD dans l'équipe France? Vous travaillez avec le ministre? Vous travaillez avec d'autres interlocuteurs? Vous faites comment?
Alors, l'équipe France est à la partie de ceux qui vont participer aux négociations. Donc là, tu as des représentants du ministère des Finances, évidemment, parce qu'il y a des engagements financiers, des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des représentants du ministère de la Transition écologique. Eux sont réunis autour de notre ambassadeur français pour le climat et de notre ministre pour le climat et la biodiversité et les négociations internationales climat et nature. Okay. Donc ça forme l'équipe France. Et nous, on fait aussi partie de l'équipe France, mais on n'est pas dans l'équipe de négociation. Nous, on est dans l'équipe des acteurs du concret. Et l'échange entre les deux sphères, il est intéressant parce que la sphère politique prend des décisions en s'inspirant de ce que les projets peuvent faire. Et nous, on va mettre en œuvre les décisions politiques. Donc, tu vois, il y a des interactions qui sont importantes et c'est aussi pour ça que nous, on va à la COP.
Quel bilan tu tires de cette COP 30 à Belém? J'ai entendu parler de déception, j'ai entendu parler de COP mitigée. Qu'est-ce que tu en penses?
Eh bien, je crois qu'il s'est passé deux choses assez importantes à Belém.
Ok, le bon sens du terme?
Oui.
Tu vas nous expliquer.
En fait, deux choses, je crois, qui sont assez structurantes. Tu as raison, il y a une certaine déception parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a même pas, dans la décision finale, de mention de la déforestation alors qu'on était en plein milieu de l'Amazonie. Donc, il y a clairement une forme de déception. Mais si on regarde bien, il se passe quelque chose, j'ai l'impression, à bas bruit, mais auquel il faut prêter une attention importante, c'est que c'est l'agenda social qui a avancé. Et tu vois, il y a plusieurs, il y a plusieurs décisions qui concernent l'humain, les gens, leur vie dans les transitions écologiques. Par exemple, l'accord final fait mention d'une intention de tripler les financements pour l'adaptation au changement climatique. Et l'adaptation, c'est vraiment...
C'est l'un des volets de la lutte.
Et puis c'est du concret, c'est ce qui touche à la vie des gens qui pâtissent déjà des effets du changement climatique et qui doivent se préparer en plus aux effets qui vont se produire prochainement. Par exemple, la mention de la lutte contre la désinformation en matière de climat et pour l'intégrité de l'information climatique. Ça aussi, c'est un sujet social. Tu as, par exemple, un mécanisme pour la transition juste. Tout à l'heure, j'ai mentionné, tu ne fermes pas une centrale à charbon comme ça sans planifier toute la filière charbon et les travailleurs, ça, c'est précisément la transition juste. C'est prendre l'humain dans la transition écologique. Eh bien, à Belém, on a trouvé à mettre en œuvre un mécanisme de la transition juste. Et encore un élément, par exemple, on a adopté le plan climat-genre. Parce que les femmes pâtissent davantage des effets du changement climatique que les hommes, essentiellement parce qu'elles font partie des communautés les plus vulnérables dans la plupart des pays affectés par le changement climatique. Mais tu vois, toutes ces décisions mises bout à bout, ce sont des sujets sociaux. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où peut-être on a du mal à progresser sur des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre tant qu'on ne progresse pas bien et de façon volontaire sur l'agenda social et de justice climatique.
Alors l'autre chose qui a été critiquée sur cette COP 30, c'est l'absence de Donald Trump, de Xi Jinping, des géants et des plus gros pollueurs de la planète. Et toi, tu dis que pour autant, ça n'a pas enrayé la machine du multilatéralisme.
Non, parce que, alors, c'est clair, normalement, ce sont des négociations qui se tiennent à 195 États, les États-Unis n'étaient pas là, la Chine était là. Donc, ça s'est passé à 194 États, et pour autant, on a réussi à progresser, à trouver un accord. Mais la deuxième chose que je voulais te mentionner, et qui s'est produite à Belém, et qui est hyper importante, c'est que l'agenda de l'action, lui, il est bien vivant. Et en fait, tu vois, je t'ai dit, à Belém, dans les COP, il y a les négociateurs, il y a la sphère politique et il y a les acteurs. Et là, tu as toutes les banques de développement, les ONG, les entreprises, tout cela, en fait, sont prêts, sont mobilisés, sont motivés, réfléchissent à toutes sortes de solutions pour le changement climatique et y croient. Les entreprises, elles savent que c'est rentable d'investir dans le changement climatique. Et eux, ils sont prêts. Et c'est là aussi un petit peu la frustration, c'est qu'ils attendaient des orientations politiques, des engagements politiques qui étaient un peu faibles au final, alors qu'eux, ils sont prêts. Et c'est quelque chose d'un peu nouveau parce que je pense qu'il y a 10 ans, en 2015, quand on a conclu et adopté l'accord de Paris, c'était peut-être un peu l'inverse qui se produisait. On avait des politiques très, très motivés, très allants, qu'on conclut un accord vraiment structurant. Et puis, les acteurs du climat qui n'étaient peut-être pas tout à fait prêts et qui se demandaient comment ils allaient mettre ça en œuvre. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Tous les acteurs sont prêts, vraiment très motivés. Et c'est la sphère politique qui a un petit peu faibli.
C'est ce que tu appelles le multilatéralisme de l'action.
C'est un peu ça, c'est le multilatéralisme de l'action où tous les acteurs de tous les pays, tous ceux qui étaient du côté de l'action, on s'entend bien, on est prêts, on collabore, on échange beaucoup sur nos méthodes, sur tout ce qu'on peut faire ensemble et qui forme une partie de la coopération internationale.
Est-ce que tu dirais qu'on est arrivé au bout du modèle des COP ? Ou est-ce que ça sert encore à quelque chose ? De ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'engagement nouveau pris sur les réductions de gaz à effet de serre qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses, c'est parfois à bas bruit, mais ça avance. On peut continuer comme ça ou tu penses qu'il faut quand même passer la seconde ?
Alors, les COP, elles ont cette beauté et qui s'est avérée être peut-être un inconvénient cette fois-ci, c'est que les décisions sont prises au consensus. Donc, t'imagines 194, même 194 parties qui doivent trouver un consensus, c'est pas facile. Jusqu'ici, on a toujours trouvé des accords, et même cette fois, on a encore trouvé un accord, mais l'accord est en quelque sorte décevant, il n'est pas hyper ambitieux, et on a un peu l'impression qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait proposer, surtout en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par le consensus. C'est-à-dire, c'est des décisions qui ne sont pas contraignantes. Donc, chacun y met un peu du sien. C'est sur la base de la bonne volonté. Et peut-être qu'on est arrivé à un maximum de ce que le consensus permettait d'obtenir. Mais tu as raison, il y a encore tout cet agenda de l'action qui est là à côté. Et je pense qu'il est urgent qu'on retrouve le chemin du consensus politique, parce que tout le monde est prêt à recevoir l'orientation politique.
Ouais, je comprends. Où est-ce qu'on peut suivre l'action de l'Agence française de développement ? Où est-ce qu'on peut se tenir informé de tous ces enjeux ? Dis-nous.
Eh ben, on a notre site qui est régulièrement mis à jour.
AFD.fr.
AFD.fr, où vous trouvez tous nos projets. On vient même de publier un tour du monde des solutions. Où on présente plusieurs projets dans la sphère du climat, autant en termes d'atténuation que d'adaptation dans plein de pays, qui vous donnent un peu des illustrations de ce qu'on fait. Ben voilà.
Et vous avez les modérateurs qui viennent de vous mettre les liens dans le chat. N'hésitez pas à retrouver le site afd.fr et le tour du monde des solutions. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Audrey Rochecoff qui est venue sur le plateau de Backseat. Merci à l'AFD pour ce bifort.